zmian tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Après plusieurs semaines de mise entre parenthèses de toute vie sociale et économique, doucement et en ordre dispersé, l'Europe sort de sa léthargie et se déconfine. Le Covid-19 est encore virulent, mais la pression des citoyens et la nécessaire remise en route de l'économie a convaincu les gouvernements européens de la nécessité de sortir du confinement. Entre les impératifs sanitaires et les impératifs économiques, comment gère-t-on la situation du nord au sud et de l'est à l'ouest de notre continent? Comment réouvrir les frontières à l'intérieur de la zone Schengen? La saison touristique a-t-elle compromise pour les pays du sud de l'Europe? Comment relancer l'économie et faire face au chômage de masse qui menace? Le pacte vert sera-t-il l'ultime victime du coronavirus? Voilà quelques-unes des questions que nous allons poser à notre invité. Bonjour Philippe Lamberts.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé belge et coprésident du groupe des Verts au Parlement européen. Et c'est un secret pour personne, vous êtes un eurodéputé qui compte au sein de ce Parlement de Strasbourg. Et puis nous ferons un petit tour d'Europe avec les correspondants de RFI. Pascal Thibault est à Berlin, Pierre Benazet à Bruxelles, Muriel Delcroix à Londres, Anne Lenir à Rome, Thomas Giraudot à Varsovie, Élise Gazangel à Barcelone et Frédéric Faux à Stockholm. Bonjour à tous. Et puis, comme chaque semaine, nous serons en ligne avec Sacha Michel de Courrier International. Philippe Lamberts, comme tout le monde, le Parlement européen a été confiné et a découvert les joies du télétravail. Le virus reste virulent, je l'ai dit, mais la vie reprend tout doucement. Est-ce que l'activité parlementaire a été particulièrement réduite pendant tout ce temps, c'est pratiquement 2 mois?
Alors, elle a été considérablement réduite, et c'est là qu'on se rappelle que la démocratie, ça a commencé sur une agora en Grèce, des gens qui se rencontrent, qui débattent, qui délibèrent, qui décident. Et pour cela, il vaut mieux se rencontrer. Alors, c'est vrai que dans l'urgence de la réponse à la crise, c'était l'heure des exécutifs, des gouvernements, pour prendre les mesures d'urgence. Et il est normal que dans cette phase où l'on combat l'incendie, les parlements soient quelque part plutôt spectateur qu'acteur de la réponse, mais maintenant nous sommes appelés à mettre en place la réponse pour l'après-coronavirus. Alors on est toujours dans la phase de la pandémie, il ne faut quand même pas s'imaginer que le virus est vaincu, nous allons devoir vivre avec ce virus pendant des années, mais nous devons faire en sorte d'organiser l'après qui, je pense, une grande majorité de nos concitoyens sont d'accord pour dire qu'il ne peut pas ressembler à l'avant. Autrement dit, il faut une nette différence et là, le rôle des parlements est crucial. On commence à se réunir à nouveau, nous avons une plénière cette semaine-ci, alors le Parlement est encore très loin de réunir 705 députés, beaucoup sont encore empêchés de voyager, mais les bâtiments s'animent de nouveau petit à petit.
C'est un peu comme à RFI où il y a un petit peu plus de monde, mais encore les couloirs sont tout de même un peu déserts. Philippe Lamberts, nous allons débuter notre petit tour européen en commençant par chez vous à Bruxelles où nous retrouvons Pierre Benazet. Pierre, les chiffres sont parfois trompeurs. Officiellement, la Belgique est le pays le plus meurtri par le coronavirus par rapport au nombre d'habitants. Il faut relativiser tout ça, ce qui n'a pas empêché les Belges de retrouver depuis quelques jours une certaine liberté, Pierre.
Oui, effectivement. Et il y a déjà eu une sorte de pré-déconfinement le 18 avril, un mois après le début, quand on a rouvert les deux commerces qui manquaient les plus aux Belges, à savoir les jardineries et surtout les magasins de bricolage.
Alors, vive les jardiniers, vive les bricoleurs belges, mais le déconfinement a commencé quand, en fin de compte?
Alors, véritablement, le 4 mai, il y a 10 jours, la phase surnommée 1A, avec la reprise des industries, celle des services, des professionnels à professionnels. Le télétravail reste la norme générale pour les Belges, mais pour permettre une augmentation des déplacements qui n'a d'ailleurs guère eu lieu, les masques sont devenus obligatoires dans les transports pour les plus de 12 ans. La pratique du sport a été élargie, par exemple, athlétisme, golf, tennis. Deuxième étape, ou phase 1B, ce lundi 11 mai, presque tous les autres commerces ont pu rouvrir, sauf hôtels, cafés et restaurants, par exemple.
Alors, juste avant ça, il y a eu quand même eu, à la veille, une première petite reprise de vie sociale. On peut appeler ça comme ça, je crois.
Oui, effectivement, vous avez raison. C'est à l'occasion de la fête des mères qui avait eu lieu le 10 mai, comme dans la majorité des pays d'Europe. Et la Belgique a mis en place une pratique très originale. Vous pouvez recevoir chez vous 4 personnes, toujours les mêmes. C'est le principe dit des silos. On permet une extension de la contamination, mais limitée à des groupes stables et identifiables. table. On attend maintenant la phase 2 pour ce lundi, avec la reprise des coiffeurs, des marchés, du sport pour groupe de 20 personnes au maximum, des musées et surtout de certaines années scolaires en primaire et en secondaire, avec depuis ce vendredi une journée de test en Flandre pour certains enfants, dont un des miens.
Donc vous allez pouvoir aller chez le coiffeur et emmener votre enfant à l'école. Bravo pour cette petite note personnelle, Pierre. Mais pour la suite de la vie sociale, le tourisme, les terrasses, des cafés, des restaurants, la préparation de vacances d'été, bah ça c'est autre chose.
Oui, ça c'est la phase dite phase 3. Je peux vous dire que les Belges attendent avec impatience le verdict de la première ministre, mais il est prévu seulement pour le 8 juin.
Eh bien, on va attendre. Pierre Benazet, merci à Bruxelles. Situation un peu différente à Berlin avec vous, Pascal Thibault, où le déconfinement est géré non pas nationalement, mais au niveau de chaque land.
Oui, effectivement, c'est notamment le résultat de la rencontre de la semaine dernière entre Angela Merkel et les ministres-présidents des 16 Länder. On s'est rencontrés d'ailleurs à plusieurs reprises à ce niveau-là, ce qui montre l'importance du fédéralisme dans ce pays. Et il faut bien appeler les choses par leur nom. Angela Merkel a dû capituler devant l'impatience de certains présidents de région de déconfiner, même si on n'a jamais vraiment confiné en Allemagne. Il faut le rappeler, on a pris des mesures de précaution, mais beaucoup moins drastiques que celles qu'on a pu connaître en France ou en Italie. Donc, les régions sont compétentes, avec donc un camailleux de dates et d'entrée en vigueur de certaines dispositions. Il y a parfois des tableaux qui paraissent dans la presse pour essayer de s'y retrouver, qu'il s'agisse des magasins, les jusqu'à 800 mètres carrés, ils avaient déjà rouvert. Maintenant, tous les magasins, même les plus grands, les grandes surfaces, vont réouvrir. Pour les restaurants, ça a commencé samedi dernier et cette semaine, une région, l'une après l'autre, va rouvrir. Ça sera le cas demain à Berlin. Les hôtels, c'est prévu pour la fin du mois. Très important depuis lundi, on en parlait à l'instant, les coiffeurs qui ont été pris d'assaut évidemment par les gens un peu chevelus. Les écoles, il y avait déjà eu des élèves qui avaient été rappelés pour passer des examens et puis ça commence plus sérieusement la semaine dernière avec différentes classes et d'ici l'été, tous les élèves vont repasser par l'école mais vont aussi retourner chez eux pour évidemment limiter les risques au maximum. Très important en Allemagne, évidemment une vache sacrée du modèle social allemand, la Bundesliga qui a repris ce week-end le football. Voilà. Et puis les règles, eh bien, elles sont un peu plus assouplies, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer non plus une seule personne à l'extérieur, mais on peut rencontrer toutes les personnes appartenant à un autre foyer. Bien sûr, les distances, le port des masques dans les magasins et les transports publics, ça reste valable.
Merci Pascal Thibault à Berlin. Et en Italie, buongiorno Anne Lendir, comment se passe ce retour à la liberté, liberté tout à fait conditionnelle?
Eh bien, tout d'abord, buongiorno. Ici, tout va piano piano. La phase de cohabitation avec le virus a été entamée le 4 mai. Une nouvelle étape sera franchie à partir de demain, 18 mai, avec la réouverture des commerces de détail, des salons de coiffure ou encore de certains restaurants et musées. Alors, jusqu'à présent, près de 5 millions de salariés ont repris leur travail, essentiellement dans les secteurs industriels. Les transports publics n'ont pas été pris d'assaut car les Italiens ont très peur du virus. 70% d'entre eux en fait, privilégient les deux roues ou leur voiture. Alors, dans l'ensemble, le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics et l'interdiction de tout rassemblement, de toute fête, même en famille, sont respectées. Cela dit, les Italiens redécouvrent de bons petits plaisirs, comme les espressos et cappuccinos au bar, leur rituel du matin par excellence. Alors évidemment, pas question de refaire le tour du monde autour d'un comptoir ou assis en terrasse. On vous sert les boissons dans des gobelets sur une table, devant les bars. Aucun contact physique. Mais c'est déjà un joyeux retour des ciao bella, ciao bello. Et puis, belle nouvelle pour les enfants, privés d'école jusqu'au mois de septembre, accompagnés d'un adulte, ils peuvent enfin accéder au parc public. Pour eux, c'est vraiment un soulagement après 2 mois de vie cloîtrée. Et moi qui suis à Rome, je constate que cette gradualité de la reprise des activités permet encore d'admirer sereinement les splendeurs de la ville éternelle. Et ça, c'est un cadeau que tous les Romains peuvent s'offrir.
Grazie mille, Anne. On termine la première partie de notre tour d'Europe par Barcelone. En Espagne, Élise Gazangel, retour à la normale, prudent et régionalisé. Il faut bien sûr rappeler que l'Espagne a été l'un des pays les plus meurtris par le coronavirus.
Effectivement, Daniel, après 8 semaines de strict confinement espagnol, eh bien depuis ce dernier lundi, 11 mai, la phase 1 du déconfinement a été enclenchée. Mais ici, tout le territoire ne passe pas de phase aux mêmes dates. Et c'est en fonction donc de toute une série de données que les experts jugent du déconfinement par province. Résultat, depuis lundi donc, seul un peu plus de la moitié du territoire est passé en phase 1. Alors ça veut dire notamment que les terrasses des bars rouvrent à 50% de leur capacité ou que les Espagnols peuvent enfin se réunir jusqu'à 10 personnes sous un même toit. Mais donc pour le reste du territoire et notamment pour les grandes villes comme ici à Barcelone ou encore Madrid, Valence, Grenade, eh bien ces villes, elles restent en phase zéro et le déconfinement risque de prendre plus de temps jusqu'à au moins ce que les chiffres en fait rassurent un peu plus les autorités. En principe, en Espagne, il y aura donc 4 phases de déconfinement et au plus tôt, certaines provinces seront déconfinées dans 6 semaines, ce qui nous amène pratiquement à fin juin, tandis que Madrid et Barcelone, qui sont, rappelons-le, les zones les plus touchées par ce virus, ne retrouveront pas ce que les autorités appellent la nouvelle normalité avant juillet, voire même plus tard dans l'été.
Gracias, Élise. Philippe Lambert, on voit que, évidemment, l'Europe est l'épicentre du virus. Et on voit aussi que la stratégie du déconfinement, comme celle du confinement 2 mois plus tôt, elle est nationale, voire régionale, et pas européenne. Je serais tenté de dire, et vous allez me confirmer ou pas, pour 2 raisons. La santé n'est pas une compétence de l'Union européenne, en tout cas jusqu'alors. Et puis, bien sûr, la situation n'est pas la même dans les différents pays européens, d'où la difficulté d'avoir une stratégie, une politique européenne en la matière.
En effet, et c'est même vrai à l'intérieur des pays, puisque même quand vous n'avez pas une structure fédérale, on voit bien en France, le pays n'a pas été touché de manière égale par la pandémie, et donc il est assez logique que les réponses soient différenciées d'un endroit à l'autre. Je pense en effet que si on devait appliquer une mesure unique à l'Europe, ce serait forcément la mesure la plus stricte, et je pense que ce serait excessif. Et comme vous le dites, les compétences de santé, qu'il s'agisse de prévention ou de traitement des maladies, ça reste des compétences nationales, voire régionales dans certains pays.
On va faire un petit détour par la rédaction de Courrier International, le partenaire historique de Carrefour de l'Europe. Bonjour Sacha Michel.
Bonjour Daniel.
L'Autriche a été le premier pays en Europe à entamer son déconfinement. Et le déconfinement implique partout le port du masque et cela n'a rien d'évident.
Le masque est obligatoire dans les transports depuis lundi en France, mais en Autriche, la mesure est en place depuis le 14 avril dernier. Et premier constat, formulé à l'époque par une journaliste de Die Presse à l'occasion d'un reportage, leur usage n'est pas des plus aisés. Dans les métros et les trams de la capitale, Vienne, les passagers se touchent le visage en permanence. Ils font glisser leur masque sous le nez, puis le remontent. En un mot, l'inconfort règne. Pour être plus à l'aise, éviter d'avoir trop chaud ou d'avoir les lunettes embuées, certains évitent de se recouvrir le nez. Problème, rappelle Die Presse, porté de la sorte, les masques deviennent inutiles. Mais surtout, relève le quotidien conservateur, cette obligation de se munir d'un masque donne lieu à des frictions, gare ou contrevenant. Au cours de ses pérégrinations dans le réseau de transport viennois, la journaliste de Die Presse a par exemple assisté à la scène suivante. 2 jeunes hommes qui montent dans la ligne 46 du tram sans masque, ils s'assoient côte à côte et discutent. À peine 10 secondes plus tard, un homme les somme de ne pas parler pour au moins éviter les postillons. Une femme enchaîne et leur rappelle que le port est obligatoire. Puis une troisième personne érupte, irritée de devoir porter un masque toute la journée pendant que d'autres s'en affranchissent. Fusillés du regard par tous les autres passagers masqués, les 2 jeunes hommes ont l'air décontenancés, rapporte Die Presse. Dans les transports viennois au temps du coronavirus, chacun surveille son prochain avec plus ou moins de tolérance, remarque la journaliste qui conclut. Ironique, la police n'a pas à s'inquiéter, ils ne sont pas tout seuls à faire respecter la consigne. En leur absence, les autres passagers s'en chargent déjà pour eux.
Merci Sacha Michel, Courrier International, l'Hebdo et courrierinternational.com, le site. Philippe Lambert, les fameux masques, c'est une révolution en Europe. Le port du masque était plutôt l'apanage des pays asiatiques. Au fait de vous en porter un, là vous êtes chez vous, confiné, mais dès que vous sortez à Bruxelles, vous en portez un?
Tout à fait, à part dans mon bureau quand je suis seul au Parlement européen. Je porte le masque et également en plénière, nous sommes obligés de le porter, sauf évidemment au moment où nous prenons la parole. Là, nous pouvons l'ôter, mais...
C'est le point commun avec la radio. Quand je suis devant un micro, je l'ôte.
Voilà, mais on ne peut plus remplir l'hémicycle comme avant. Autrement dit, pour tenir la distanciation physique, eh bien, on ne peut mettre qu'un député tous les 2 sièges et ça n'est qu'à cette condition-là qu'on peut retirer le masque en plénière.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, la santé, le sanitaire n'est pas une compétence européenne, mais toutefois, les institutions européennes et notamment la Commission ont réagi en décidant qu'il fallait créer un stock stratégique de masques chirurgicaux chirurgicaux. Et je crois qu'il est en train de se constituer, ce fameux stock, hein, Philippe Lamberts.
Oui, tout à fait. C'est une initiative du commissaire français, le commissaire Breton. Et je pense qu'en effet, ça fait partie, je pense, de ce que l'Union européenne devrait faire. Alors, les masques ne sont pas les seuls éléments nécessaires en cas d'urgence, mais c'est vrai qu'il fait sens pour l'Union européenne de se doter du matériel, des équipements nécessaires pour faire face à des urgences sanitaires telles que celle-ci. Ça permettrait en tout cas d'assurer une solidarité immédiate avec les premiers pays touchés, le temps pour les autres pays de trouver leur marque.
Deux pays ont adopté des stratégies différentes, voire divergentes, la Pologne et la Suède. À Varsovie, nous retrouvons Thomas Giraudeau. Bonjour Thomas. La Pologne, Thomas, qui s'est repliée sur elle-même très très tôt.
Oui, le premier décès, c'était le 12 mars ici, et immédiatement, les cinémas, les théâtres, les musées, les facultés, les écoles ont été fermées. Le lendemain, le 13, des contrôles sanitaires ont été établis aux frontières, puis les frontières ont été fermées aux non-polonais ou à ceux qui ne travaillent pas en Pologne. Les mesures très rapides et drastiques ont donc été prises. Il faut ajouter à cela la discipline des Polonais, et il y a aussi peu de tourisme venant de l'étranger en Pologne, donc finalement, on a peu de cas par rapport à la population. Il y a près de 40 millions d'habitants ici et moins de 20 000 cas, moins de 900 morts pour l'instant. Alors, les hôpitaux ne sont pas surchargés, donc le déconfinement a finalement été progressif, entamé depuis près d'un mois. D'abord, la réouverture des parcs et des forêts, c'est fondamental ici en Pologne. Depuis deux semaines ensuite, les magasins sont rouverts dans les centres commerciaux, les hôtels également, mais sans la partie restauration, ainsi que les musées. Et puis, lundi qui arrive, les salons de coiffure, de beauté vont rouvrir, ainsi que les restaurants, mais sous des conditions très drastiques. Attention quand même, le gouvernement se laisse la possibilité de revenir en arrière et de reconfiner si le nombre de cas explose de nouveau. Et puis il y a la situation dans la région de Silésie au sud du pays qui est vraiment surveillée de près. Les mines de charbon là-bas sont devenues un foyer d'épidémie important. Des tests massifs sont menés en ce moment sur les mineurs et sur leurs familles cette semaine.
Merci Thomas Giraudeau. Direction Stockholm maintenant. Bonjour Frédéric. Faux. La Suède est le seul pays en Europe à avoir opté pour l'immunité collective. Elle n'a donc pas cloîtré sa population, qui était, selon la formule que l'on emploie à Stockholm, en confinement volontaire.
Oui, c'est vrai qu'on a du mal à trouver les mots exacts, parce que vous l'avez dit, en Suède, il n'y a pas eu de confinement. Il y a eu des mesures obligatoires, hein. C'est vrai. Par exemple, le fait qu'on ne peut pas se regrouper à plus de 50 personnes, le fait que dans les restaurants et les bars, eh bien, on ne peut plus consommer au comptoir, il faut que les consommateurs gardent aussi des distances entre eux. Il y a aussi le fait que dans les maisons de retraite, évidemment, les visites sont interdites. Mais pour le reste, ça a été des recommandations, des demandes de l'autorité suédoise de santé pour que les Suédois respectent certaines mesures. Bon, ben, il faut privilégier le télétravail. Dès que l'on est malade, on doit rester chez soi. Il faut éviter de se déplacer, éviter les transports en commun, surtout aux heures de pointe, limiter, bien sûr, ses contacts sociaux, ses relations avec les autres. Ce sont des mesures qui sont valables pour tout le monde, mais encore plus ici, on incite vraiment sur ce fait, pour les plus de 70 ans. Ce sont des recommandations qui ne sont pas surprenantes, parce que finalement, c'est ce qui se fait maintenant en Europe, dans les pays qui déconfinent. C'est ce que les gouvernements européens demandent à leurs concitoyens de faire. Mais on ne peut pas dire cependant que rien n'a changé en Suède. En fait, pour résumer, on peut dire que les gens se déconfinent tout seuls. Les déplacements, par exemple, recommencent à augmenter. Ça, on l'a mesuré, notamment à Stockholm. Ça veut dire que ces mesures, ces recommandations sont quand même de moins en moins respectées. On voit aussi des musées qui avaient fermé pendant les semaines précédentes et là qui préparent leur réouverture, toujours en essayant de respecter cette limite de 50 personnes.
Merci Frédéric. Et puis, pour achever ce tour d'Europe forcément incomplet, escale londonienne. Bonjour Muriel Delcroix.
Bonjour Daniel.
Pour évoquer la situation au Royaume-Uni, le mot qui me vient à l'esprit, c'est chaotique. Chaotique et tardif, le choix d'une stratégie, et chaotique, le retour à une vie normale. Je suis injuste ou pas ?
Écoutez, c'est vrai que le confinement était tardif, et ben du coup le déconfinement l'est aussi. Ici, tout est à petits pas. Boris Johnson parle d'ailleurs de baby steps, des pas de bébé. Et en fait, c'est plus un assouplissement du confinement qui est maintenu en réalité hein, jusque début juin chez nous. Alors il y a déjà eu de premiers allègements cette semaine. Depuis mercredi, on peut sortir et faire du sport de façon cette fois illimitée. Et puis surtout, tous ceux qui ne peuvent pas travailler chez eux sont encouragés activement à retourner dans les usines et les chantiers, mais en évitant le plus possible les transports en commun et en portant un masque. Donc ça, c'est la première phase du déconfinement. La deuxième phase, c'est à partir du 1er juin, donc réouverture cette fois de certaines classes dans les écoles primaires, réouverture des commerces non essentiels. Et puis une troisième phase, ça sera aux alentours du 4 juillet au plus tôt si tout va bien, réouverture cette fois des pubs, des restaurants, des cinémas et des fameux salons de coiffure. Je peux vous dire ici que beaucoup attendent ça avec une impatience non dissimulée. Alors, le problème, c'est que ce déconfinement progressif a été présenté de façon très brouillonne par le Premier ministre, ce qui a provoqué pas mal de confusion. Je vous donne quelques exemples. Le gouvernement a annoncé que dorénavant, vous pourriez rencontrer un autre membre de votre famille ou un ami, mais cela seul et à l'extérieur, pas à la maison. Mais c'est problématique parce que du coup, il y a plein de familles qui demandent pourquoi ils ne peuvent pas voir leurs proches chez eux, alors que depuis mercredi, eh bien, on peut laisser rentrer chez soi sa femme de ménage, sa nounou ou même un agent immobilier. Et puis autre contradiction, le gouvernement demande aux gens de retourner au travail, mais les écoles ne vont pas rouvrir avant le 1er juin. Donc pour ceux qui ont des enfants, comment ils les font garder? Donc ça fait grincer beaucoup de dents, et puis ça fait naître aussi des divisions au sein du Royaume-Uni, parce que ben, les autres nations, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, sont plus prudentes, et elles ont carrément décidé, elles, de ne pas suivre le plan du gouvernement.
Merci Muriel, on comprend que partout en Europe c'est compliqué ce retour à la normale, peut-être un peu plus encore compliqué, difficile et incompréhensible à Londres. Alors Philippe Lamberts, le retour à la normale, c'est évidemment des enfants qui retournent à l'école, c'est des magasins qui rouvrent, mais c'est aussi la nécessaire remise en route de l'économie européenne. Les prévisions sont pour l'heure une chute du PIB dans la zone euro de 7,4%, ce qui est considérable et ce qui est du jamais vu. La Commission européenne, la BCE, la Banque centrale européenne, la BEI, la Banque européenne d'investissement ont très rapidement mobilisé 540 milliards d'euros pour pallier au plus pressé. Déjà, Philippe Lamberts, on peut dire une meilleure réactivité lors de la dernière crise, celle de 2008-2010, la crise financière et la crise de l'euro. Ça a permis, par exemple, de financer le chômage partiel en France ou des choses à peu près équivalentes dans le reste de l'Europe. Meilleure réaction, Philippe Lamberts, face à cette crise incroyable, jamais vue, des institutions européennes.
Oui et non, parce que ce qui a été fait jusque maintenant, ce sont des mesures de portée relativement limitée. Alors, ce qu'on a fait, c'est une bonne chose, c'est suspendre l'application des règles budgétaires européennes, des règles budgétaires qui, de toute façon, n'ont aucun sens économique, n'ont pas de base scientifique, mais il était temps, en tout cas, qu'on s'affranchisse d'une idéologie totalement pernicieuse, surtout dans des phases comme celles que nous vivons.
Mais Philippe Lamberts, pour que tout le monde comprenne, l'abandon des règles budgétaires, c'est les fameux 3% de déficit budgétaire qu'il était impossible de franchir pendant des années et des années. Et aujourd'hui, cette règle budgétaire a volé en éclats. C'est quand même une petite révolution.
Face à la violence de l'événement, je pense que les partisans de l'orthodoxie budgétaire sont d'abord motivés par des raisons idéologiques, et les chiffres qui ont été inscrits dans les traités européens, c'est-à-dire que le déficit public ne peut pas excéder 3% du produit intérieur brut et le stock de dette publique ne peut pas en théorie excéder 60% du PIB, ces chiffres n'ont aucune base scientifique, mais simplement, ils ont pour but de corseter la puissance publique au profit du marché. Et la bonne nouvelle, c'est que cette crise a fait voler en éclats ce corset. Alors on verra pour combien de temps, mais en tout cas je pense qu'il sera très difficile de justifier après la pandémie le retour à ces règles budgétaires. De la même manière, c'est le grand retour de l'État. Autrement dit, ce que cette pandémie nous rappelle, c'est que lorsque la vie est en jeu, lorsque l'intérêt général est en jeu, eh bien ce n'est pas le marché qui est le garant de l'intérêt général, c'est l'État, ce sont les institutions démocratiques plutôt que le marché qui sont en charge. Et cela nous rappelle quelque part la juste hiérarchie des choses. Le marché doit être soumis aux règles de l'État et pas l'inverse. Et donc je pense que de ce point de vue-là, à nouveau, la pandémie, je pense, c'est un choc qui, face à des idéologies aussi obtuses, sera un choc salutaire.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, l'Europe se déconfine. Nous sommes avec les correspondants européens de RFI et avec Philippe Lamberts. Il est eurodéputé belge et coprésident du groupe des Verts au Parlement européen. Philippe Lamberts, cette crise du coronavirus a confirmé, si besoin était, la fracture entre le nord et le sud de l'Europe et encore plus dans la zone euro. Il y a quelque chose de mortifère dans cette fracture entre le nord et le sud de l'Europe.
Absolument. Et je pense que le mot que vous avez choisi est très bien choisi. D'abord au sens premier du terme, puisque dans un premier temps, On a vu des États comme l'Allemagne, comme la Tchéquie, empêcher le transfert en Italie de matériel comme des masques ou des respirateurs artificiels. Et en cela, ben, ces mesures nationalistes ont contribué à une hausse de la mortalité en Italie. Et donc cela a évidemment un effet mortel sur les personnes concernées, mais potentiellement mortel pour la construction européenne elle-même. Autrement dit, ce projet a été lancé voici 70 ans par la déclaration Schuman, qui affirmait que l'Europe se ferait par des gestes qui mettraient en place progressivement une solidarité de fait entre les États européens, ce qui s'est démontré depuis la crise de la zone euro voici une dizaine d'années. C'est en fait que l'idée même qui est à la base de l'Union européenne, celle d'une solidarité entre les États membres, recule non seulement du fait de l'émergence de partis nationaux populistes, mais en réalité à l'intérieur même des partis de gouvernement en Europe. C'est l'attitude de la CDU et du SPD en Allemagne, donc les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates, qui a rendu impossible la mise en place d'une véritable union budgétaire et donc union fiscale en Europe. Donc ce ne sont pas les partis nationaux populistes qui sont au pouvoir, ce sont les partis traditionnels, libéraux, chrétiens-démocrates, sociaux-démocrates, qui de facto mènent des politiques qui contrecarrent la solidarité européenne. Et là, on est à une heure de vérité.
Évidemment, Philippe Lambert, le mot clé aujourd'hui, alors qu'il va falloir relancer l'économie européenne, c'est le mot solidarité. Alors, et on va voir si cette solidarité se met en œuvre ou pas, et on va voir à quel niveau elle est susceptible de se mettre en œuvre à travers un emprunt que l'Europe va lancer ça va être on ne sait pas encore exactement sous quelle forme. C'est la Commission qui devrait l'initier. En tout cas, elle y travaille, elle prépare un plan qui pourrait garanti par l'ensemble des pays européens. Et le nom le plus couramment employé pour cet emprunt, c'est Coronabond. On en entend, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Toute la question est de savoir à quel niveau cet emprunt sera solidaire ou pas entre les différents pays européens. Ce sera vraiment le moment clé où on verra si la solidarité européenne s'affiche ou pas.
Ça va jouer dans les semaines qui viennent. En effet, la Commission européenne est en train de préparer un plan. L'idée est que la colonne vertébrale du plan de reconstruction de notre économie ou de redéploiement de notre économie soit le budget européen. Mais comme vous le savez, le budget européen est de taille extrêmement modeste puisqu'il pèse à tout casser 1% du PIB européen. Donc l'idée serait de renforcer très substantiellement le budget européen pour une période limitée. Alors on verra bien à combien d'années. Et que ce budget soit abondé par un emprunt européen souscrit collectivement et, nous l'espérons, remboursé collectivement. Parce que c'est cela la question de fond, c'est est-ce que la Commission européenne se contente de fournir une signature collective laissant ensuite les États membres rembourser chacun les emprunts qui leur auront servi, ou au contraire, empruntons-nous collectivement pour rembourser collectivement? Autrement dit, la vraie question qui joue, c'est celle de la solidarité financière. Est-ce qu'on est d'accord que la réponse à la crise doit se faire selon la logique de à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses capacités? Autrement dit, que les États membres les plus fortunés, les plus prospères, contribuent plus que leur juste part et que les États membres les moins prospères reçoivent plus que leur juste part de ce plan. Autrement dit, on parle bien de ce que les Allemands n'aiment pas entendre, une union de transfert dans laquelle, eh bien, la solidarité financière entre les membres est forte. Ça, c'est la question. Et donc, première question, est-ce que la Commission européenne va présenter un plan ambitieux? Autrement dit, est-ce qu'elle va s'aligner sur ce qu'elle croit être le minimum passable au Conseil européen, c'est-à-dire à la réunion des 27 chefs d'État et de gouvernement, ou au contraire, va-t-elle présenter le plan qui correspond à l'urgence économique à laquelle nous faisons face? Première question. Et là, nous aurons la réponse normalement d'ici une semaine, 10 jours. Ensuite, est-ce que, si le plan est suffisamment ambitieux, est-ce que ce plan trouvera une majorité au Parlement européen? Là, je peux déjà vous dire que oui, puisque cette semaine, le Parlement a voté une résolution qui appelle à un plan de redressement économique de 2000 milliards d'euros, dans laquelle la part du secteur public devrait être majoritaire. Donc, on vous parle de plus de 1000 milliards d'euros d'investissement public. Et le Parlement est prêt à ce que ce soit financé par des emprunts émis collectivement et remboursé par des taxes européennes, ce qu'on appelle les ressources propres du budget européen, dans les décennies à venir. La grosse inconnue, c'est est-ce qu'il y aura une majorité au Conseil européen pour adopter un tel plan? Et là, se pose la question de l'antagonisme Nord-Sud. On présente souvent dans les pays du Nord la question de la solidarité sous un angle moralisateur, c'est-à-dire qu'il y aurait en Europe des États membres vertueux et il y aurait des États membres pécheurs. La réalité des choses, c'est que tous les États membres ont des comportements qui peuvent être toxiques à l'Union européenne, pas seulement la Grèce quand elle fait preuve d'inconduite budgétaire, mais lorsque l'Allemagne protège son industrie automobile quand elle triche tous azimuts, lorsque les autorités de supervision bancaire scandinaves laissent se développer les pires réseaux de blanchiment d'argent qu'on ait connus cette dernière décennie, ou quand les Pays-Bas volent systématiquement des recettes fiscales aux autres États membres, ils sont aussi dans des attitudes qui sont toxiques à l'intérêt général.
Il y aura deux pays clés dans ce qui va se passer dans les semaines à venir. Les Pays-Bas, qui sont évidemment très très retors à l'idée d'avoir une solidarité européenne conséquente, et puis évidemment, le pays clé par excellence, l'Allemagne.
Bon, je vous dirais que de ce point de vue-là, l'Autriche ou la Suède me valent guère mieux. Le pays clé, c'est évidemment l'Allemagne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le débat évolue en Allemagne. On voit des économistes qui, il y a 10 ans, s'opposaient à tout craint, à toute idée de transfert financier, de solidarité financière entre les États membres, aujourd'hui revenir sur leurs déclarations du passé en disant non, en réalité, si on veut assurer l'avenir de la zone euro, il est indispensable qu'on mette en place cette solidarité financière. C'est le patronat allemand, le patronat italien, le patronat français, mais donc avec le patronat allemand qui déclare il nous faut un plan de relance qui soit collectivement financé. Donc les idées évoluent en Allemagne. La question, c'est est-ce que, un, la chancelière Merkel fera preuve cette fois-ci de courage. Je dirais que jusqu'ici, le seul moment où elle a vraiment fait preuve de courage politique, c'était lorsque elle a accueilli en Allemagne 1,5 million de réfugiés en 2015-2016. Mais en général, que ce soit sur la réponse à la crise financière, que ce soit sur la réponse à la crise de l'euro, aux dérives de l'industrie automobile ou à la nécessaire fermeture des mines de charbon, on ne peut pas dire que la chancelière Merkel se soit révélée quelqu'un de très courageuse politiquement. Donc avec elle, c'est toujours le moins
méfiance,
possible,
le plus impossible. Philippe Lambert, la Commission européenne avait un grand projet lorsqu'elle a inauguré ses fonctions, c'était le Green Deal, le pacte vert. Alors on ne va pas rentrer dans les détails du pacte vert, mais enfin c'était l'idée d'avoir une croissance économique qui soit soutenable pour la planète. Hein. On a déjà fait sur RFI, au Carrefour de l'Europe, plusieurs émissions sur ce thème. Est-ce que le Green Deal, ce pacte vert, est-ce qu'il risque d'être une victime collatérale, je serais tenté de dire, du coronavirus ?
J'ai envie de dire que non. Bien sûr, lorsque la pandémie s'est déclarée, vous avez entendu une série d'États membres, une série de fédérations patronales, des grandes entreprises, hurler que c'était vraiment pas le moment de faire le Green Deal européen, d'imposer de nouvelles contraintes écologiques aux entreprises, parce qu'on aurait à faire face à une récession extrêmement importante. Alors, si vous analysez un petit peu qui a fait ces déclarations, vous constatez que ce sont les États membres, ce sont les industries, ce sont les entreprises qui déjà, avant la pandémie, étaient opposés à l'idée d'un Green Deal européen. Autrement dit, ils ont trouvé un nouvel alibi pour demander à sursoir à la transition écologique solidaire. Mais leurs rangs ne se sont pas grossis. Mon analyse est plutôt une analyse inverse, c'est que parmi les idées reçues qui sont fondamentalement ébranlées par la pandémie, c'est cette idée que on doit avoir un modèle économique motorisé par la croissance, la mondialisation, version néolibérale. Autrement dit, si une chose a été ébranlée par la crise du coronavirus, c'est l'idée qu'on est dans un modèle économique soutenable. Autrement dit, ce que je pense, c'est que une fraction plus importante de la population va soutenir l'idée que l'économie d'après doit être très différente de l'économie d'avant. Et ça inclut la transition écologique, autrement dit le fait de faire rentrer notre économie dans les limites biophysiques que lui impose la planète. Là, j'ai envie de dire, si je peux me permettre, qu'il n'y a pas de croissance verte possible. Vous ne pouvez pas avoir une croissance économique infinie dans un monde matériellement fini. Ça, c'est juste pas possible. C'est une impossibilité physique. Et c'est là, évidemment, que le bas blesse, parce que la stratégie du Green Deal européen de la commission von der Leyen est bien sûr bienvenue, parce qu'on vient de commissions qui, de Delors à Juncker, en passant par Stanter et Barroso, niaient en réalité la réalité des limites biophysiques de la planète, à commencer par le climat. Et donc, bonne nouvelle, on a une commission européenne qui en fait un axe principal de ses politiques, mais en affirmant c'est une stratégie de croissance. Et là, ça va être très compliqué à faire rentrer de la croissance dans les limites de la planète.
Philippe Lemaire, merci déjà pour toutes ces précisions et votre analyse de la situation. On va faire, si vous le voulez bien, un deuxième petit tour d'Europe en essayant de savoir si cette pandémie a provoqué des changements dans certains pays, pour savoir quelles sont les attentes ou les inquiétudes des Européens qui retrouvent petit à petit, partiellement, leur liberté. On va commencer par vous, Frédéric Faux, à Stockholm. Et ce qui inquiète les Suédois, c'est comment et où vont-ils pouvoir passer leurs vacances ?
Alors vous avez raison, les vacances d'été ici c'est important, surtout parce que les hivers sont longs, très longs, donc quand ça finit, on va absolument bouger. La Suède fait d'ailleurs partie des pays en Europe où l'on prend le plus l'avion. Mais là, les Suédois vont se retrouver, j'allais dire, avec les mêmes contraintes que les autres Européens. Comme eux, eh bien, leur capacité de voyager va dépendre des compagnies aériennes, des avions qui vont voler ou pas. Ça va dépendre aussi des mesures de fermeture de frontières qui vont être adoptées à l'intérieur de l'Europe. Les autorités, elles déconseillent de sortir du pays jusqu'au 15 juin. Pour l'instant, c'est la date officielle. L'épidémiologiste d'État, Anders Tegnell, lui, il a déclaré que ces restrictions de voyage, elles pourraient même continuer à s'appliquer pendant l'été et même à l'intérieur du pays, dans des régions où la propagation du virus est relativement lente. On ne veut pas risquer que cela s'accélère à cause de vacanciers ou de touristes éventuellement contaminés qui pourraient transmettre le coronavirus à d'autres. Donc, les plages d'Espagne ou de Grèce, pour les Suédois, ça va être difficile. En revanche, ce qui va être privilégié, eh bien, ce sont les vacances dans les Stugas, vous savez, ces petits chalets rouges en bois, souvent au bord des lacs, et c'est pas désagréable non plus.
Merci Frédéric Faux à Stockholm. Et en Espagne, Élise Gazangel, l'interrogation est symétriquement à l'opposé. Ben, y aura-t-il des touristes cet été ? L'Espagne qui vient d'émettre un signal pour le moins contradictoire en obligeant toute personne entrant dans le pays à une quatorzaine. Élise Gazangel.
Alors contradictoire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la question que tout le monde se pose ici désormais. Rappelons que l'Espagne, eh bien, c'est la deuxième destination touristique au monde, juste derrière la France d'ailleurs. Elle a accueilli en 2019 notamment près de 83 millions de touristes. Et pour l'Espagne, en fait, le tourisme, c'est surtout un moteur économique qui est essentiel. Ça représente 15% du PIB, 13% des emplois. Alors forcément, lorsque cette semaine, le gouvernement a annoncé que toute personne venant de l'étranger devrait rester 14 jours confinée dans son logement, eh bien forcément, le secteur touristique ne l'a pas bien pris, notamment parce qu'il n'a pas été consulté auparavant et que cela implique que au moins jusqu'à la fin de l'état d'urgence, que le gouvernement veut prolonger encore un mois ici, eh bien le secteur touristique n'accueillera pratiquement personne, puisque les déplacements des Espagnols sont eux aussi limités. Et ce mal-être se ressent encore plus dans certaines zones très touristiques, comme ici à Barcelone, sur la Costa Brava et bien sûr dans les îles, comme les îles Baléares, pour qui le tourisme, là, représente 35% du PIB. Alors, beaucoup espèrent aujourd'hui ici que le gouvernement revienne sur cette décision et qu'il s'accorde au moins avec les autres pays européens, puisque l'Espagne est visité principalement par, dans l'ordre, les Britanniques, les Français et les Allemands. Mais ce n'est pas une décision qui est facile à prendre, puisque l'Espagne a été durement touchée et continue à être durement touchée par cette pandémie. Et cette décision pose réellement un grand dilemme, alors que le tourisme de masse tel qu'on le connaît ici est complètement incompatible avec les règles sanitaires et la distance sociale.
Philippe Lemaire, le tourisme, c'est environ 10% du PIB européen et environ 12% des emplois, avec à la clé ce casse-tête de l'ouverture à l'intérieur de la frontière Schengen. Alors, la Commission a incité, il y a quelques jours, les États membres à rouvrir progressivement les frontières, mais ça reste une compétence nationale.
Ça reste une compétence nationale et je pense que nous devons aussi écouter ce que nous dit le monde scientifique. En effet, nous commençons à déconfiner alors que le virus est encore extrêmement présent dans nos sociétés et la fraction de la société qui jusqu'ici a été infectée est totalement minoritaire. Autrement dit, si on rouvre trop vite le robinet, le risque c'est que nous fassions face à une deuxième vague d'ampleur encore supérieure à la première, ce qui serait, je pense, extrêmement dommageable pour nos sociétés et pas seulement pour nos économies. Donc je pense qu'il faut être en effet prudent. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le tourisme est une activité extrêmement importante en Europe. De toute manière, cette année-ci sera une année extrêmement difficile, ne serait-ce que parce que, à supposer même qu'on rouvre totalement ou partiellement les frontières internes de l'Union européenne, les frontières externes vont rester fermées. Or, on sait que l'Union européenne accueille beaucoup de touristes venus des États-Unis, de Chine et d'ailleurs dans le monde. Donc, de toute manière, l'année touristique sera une année beaucoup plus difficile que les précédentes.
À Berlin, nous l'avons déjà évoqué, Pascal Thibault, la fameuse règle des 3% de déficit budgétaire a volé en éclats. Et c'est tout de même une petite révolution au pays de la chancelière Angela Merkel.
Oui, effectivement, c'est une vache sacrée, en quelque sorte, de la culture économique et financière allemande qui a été sacrifiée sur l'autel de la pandémie, la stabilité budgétaire. Il faut rappeler quand même linguistiquement le mot « dette », « schuld » a la même racine que le mot « culpabilité ». C'est une grande coalition déjà entre chrétiens et sociodémocrates qui avait ancré le principe de la stabilité budgétaire dans la Constitution, prévoyant au maximum un déficit de 0,35% du budget de l'État. Ces dernières années, l'Allemagne a accumuler les excédents budgétaires, ce qui lui facilite la tâche aujourd'hui. Tout cela va voler en éclats. Également, la dette de l'Allemagne devrait augmenter cette année de 60 à 75% du produit intérieur brut, ce qui reste un niveau que beaucoup d'autres États aimeraient avoir. Il y a eu des dépenses massives qui ont été annoncées directement par le budget de l'État, mais aussi avec des garanties publiques pour des prêts effectués par une banque publique. Bref, tout cela se monte à des centaines de milliards d'euros et ça remet donc en cause, encore une fois, une valeur essentielle du modèle économique allemand.
Et tous ces milliards d'euros que vous avez cités, ça donne évidemment un peu le vertige, Pascal Thibault. Merci à Pascal Thibault à Berlin. Surprise à Varsovie, où à l'insu de son plein gré, Jarosław Kaczyński, l'homme fort de la Pologne, même s'il n'est que député, a subi une déconvenue pour cause de coronavirus. Thomas Giraudot à Varsovie.
Oui, c'est un échec pour Jarosław Kaczyński, le chef du parti droit et justice au pouvoir. Pourtant, il avait une sorte de plan parfait avant l'épidémie, faire réélire le président actuel pour 5 ans, à coup de grandes promesses sociales. Le chef de l'État, Andrzej Duda, est très populaire, et donc l'idée, c'était évidemment de conserver le pouvoir. Tout cela alors que Jarosław Kaczyński, je le rappelle, n'est que simple député, il n'est même pas membre du gouvernement. Mais la pandémie, elle a tout bouleversé. D'abord, il a voulu en bénéficier, Jarosław Kaczyński, puisqu'en fait, la popularité du chef de l'État actuel a grimpé en flèche. Andrzej Duda aurait été réélu dès le premier tour s'il avait eu lieu le 10 mai, selon les sondages. Mais finalement, ça a été impossible parce qu'il n'y a pas eu de campagne électorale. L'élection a été organisée à la va-vite par correspondance, par la poste. L'opposition des ONG, des institutions européennes et même des politiciens dans son propre camp n'étaient pas d'accord avec Kaczyński, n'ont pas compris son obstination à vouloir ces élections le 10 mai. Eh bien alors, il a dû reculer et accepter le report du scrutin. A priori, ça aura lieu fin juin ou début juillet. C'est donc un gros revers pour Kaczyński, mais la partie n'est pas terminée. Il manœuvre toujours en coulisses pour imposer ses conditions à ce scrutin et évidemment fait de son mieux pour que le chef de l'État actuel, Andrzej Duda, soit réélu.
Merci Thomas à Varsovie. Surprise politique en Belgique aussi, Pierre Benoizet, où la première ministre qui assurait l'intérim d'un gouvernement qui lui-même gérait les affaires courantes s'est imposée dans la crise. Son nom, Sophie Wilmès, il est devenu... Elle a une de tous les journaux et elle est devenue un personnage important en Belgique.
Effectivement, Sophie Wilmès, assez populaire d'ailleurs, membre du parti libéral, le même que celui de Charles Michel. Elle l'a remplacé cet automne quand il est parti pour présider le Conseil européen, c'est-à-dire qu'il est allé d'un bout de la rue de la Loi à Bruxelles à l'autre bout. Elle était donc au départ la remplaçante d'un Premier ministre aux affaires courantes, puisque, pour rappel, le gouvernement fédéral belge était démissionnaire depuis décembre 2018 et les élections législatives de mai 2019 n'avaient pas encore débouché sur un accord de coalition, jusqu'à ce que survienne le coronavirus, puisque l'effet politique inattendu dans le royaume de la pandémie, ça a été la mise en place d'une sorte de gouvernement d'union nationale. Fin mars, la Chambre des représentants a même accordé à ce gouvernement fédéral de plein exercice, enfin, dirigé par Sophie Wilmès, des pouvoirs spéciaux pour une période de 3 mois renouvelable. Mais je vous rassure, ça sera de courte durée, d'abord parce que la prolongation des pouvoirs spéciaux n'est pas très populaire dans les partis et dans la population peut-être aussi, et ensuite parce qu'en fait cette union nationale n'a rien apaisé des bisbilles entre les partis. Les deux partis pressentis pour servir de base à une coalition fédérale sont toujours aussi éloignés, avec d'une part en Flandre les régionalistes identitaires de droite et centre-droit de la NVA, pas l'armée est-allemande, mais la New Vlaamse Alliantie ou Alliance néo-flamande, Et d'autre part, chez les francophones, le Parti socialiste qui en est carrément à espérer de nouvelles élections pour la Toussaint.
Bon, ce qui veut dire quand même, Pierre, si j'ai bien compris, que la Belgique reste la Belgique, c'est-à-dire un pays un peu compliqué à comprendre quand on n'est pas belge. Et parfois, même si on est belge, c'est parfois un peu compliqué, c'est ce que j'ai cru comprendre. Surprise encore, en tout cas, à Londres, Muriel Delcroix, où malgré la gestion pour le moins chaotique de la crise, Boris Johnson, le Premier ministre, conserve une cote de popularité que lui envie certainement quelqu'un comme Emmanuel Macron, par exemple.
Oui, c'est vrai que c'est très étonnant. Alors, je pense qu'en fait, ce qui a changé la donne, c'est que le fait qu'il ait été touché lui-même par la maladie et qu'il ait failli être emporté par le Covid-19, ça a provoqué un grand élan de sympathie, d'autant plus que sa fiancée était au même moment sur le point d'accoucher. Et puis, il y avait aussi la crainte que le pays se retrouve tout simplement dans une situation dramatique, sans leader à sa tête. C'est aussi possible que les Britanniques vivent mieux le confinement, parce qu'il est moins contraignant ici que dans d'autres pays. Par exemple, il n'y a pas d'attestation obligatoire pour justifier une sortie, très peu d'amendes ont été distribuées, sans compter que les parcs sont restés ouverts tout le temps. Il y a aussi le fait que le programme de soutien économique gouvernemental a joué un rôle très important parce qu'il a quand même permis à plus de 7 millions de salariés de ne pas perdre leur emploi. Puis je pense aussi, il y a un dernier point, durant toute la première partie de la crise, on n'a pas eu vraiment d'opposition puisque le nouveau leader du parti travailliste, Keir Starmer, n'a pas été intronisé avant le mois d'avril. Ceci dit, le vent est peut-être en train de tourner parce que Keir Starmer, qui est un avocat de formation, réussit systématiquement à taper là où ça fait mal en ce moment face à Boris Johnson, avec des questions très percutantes, très précises, et ça commence à se voir dans les sondages où pour la première fois, son taux de popularité a dépassé de peu cette semaine celui du Premier ministre qui lui est en baisse.
Merci Muriel Delcroix à Londres et on termine avec vous Anne-Lenire à Rome. Et là, c'est encore un homme politique qui s'est révélé, le Premier ministre Giuseppe Conte.
Oui, en fait, tous les projecteurs sont braqués sur le président du Conseil, Giuseppe Conte, 55 ans, juriste sans étiquette politique. Depuis le début de la crise sanitaire, eh bien, il a révélé tout son art de la médiation avec les forces de la majorité, Mouvement 5 étoiles et Parti démocrate, et avec les présidents des régions qui, rappelons-le, ont des pouvoirs d'autonomie. C'est l'homme du gouvernement vers lequel 60% des citoyens font le plus confiance, alors que le chef de l'opposition et patron de la Ligue nationaliste, Matteo Salvini chute à 29%. Donc un score très honorable pour Giuseppe Conte dans une Italie ébranlée par les répercussions sociales et économiques de la pandémie au point de prévoir une baisse de 9% de son PIB. C'est aussi grâce à ce tisseur de compromis que la coalition au pouvoir a trouvé enfin un accord pour la régularisation d'au moins 300 000 travailleurs, immigrés ou italiens, ce qui permettra de sauver les récoltes du pays, de lutter contre les mafias qui multiplient leurs affaires avec la crise Covid-19, notamment dans le secteur agricole, mais aussi de mieux contrôler la situation sanitaire, car en Italie, eh bien, sans permis de séjour, il est impossible de bénéficier des services de santé publique.
Merci Anne-Lenire à Rome. Philippe Lambertz, on arrive au terme de cette émission et c'est vous qui allez avoir bien évidemment le mot de la fin. On a l'habitude de dire que l'Europe se construit dans la crise. Alors dans quel état sortira l'Europe de cette crise qui est probablement la plus sérieuse qu'elle a connue depuis la création de l'Union européenne il y a environ 70 ans, renforcée ou affaiblie?
Ça va dépendre des décisions qui vont être prises dans les semaines et les mois qui viennent. Ou bien les chefs d'État et de gouvernement corrigent une impression désastreuse donnée par les égoïsmes nationaux en mettant en place un plan de relance économique véritablement solidaire. Et là, je pense que l'Europe peut repartir du bon pied, ou bien ils échouent et se cantonnent dans leurs égoïsmes nationaux. Auquel cas, je pense que dans un premier temps, la zone euro et dans un second temps, l'Union européenne sont potentiellement condamnées à mort. Et donc, nous vivons un moment absolument crucial pour la construction européenne et j'ose espérer que les chefs des gouvernements seront à la hauteur de leurs responsabilités. En tout cas, le Parlement européen a montré cette semaine-ci qu'il le serait.
Merci Philippe Lambertz d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Je rappelle que vous êtes eurodéputé belge et coprésident du groupe des Verts au Parlement européen. Merci aux correspondants de RFI. Merci à Sacha Mitchell de Courrier International, réalisation Pauline Leduc. On reste en contact via Facebook et Twitter pour écouter ce Carrefour de l'Europe. Eh bien, le podcast, rendez-vous sur RFI.fr, rubrique justement podcast. Daniel Desescales, que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir. Géopolitique.